Je m'appelle Safwan Benamer et je suis CEO d'Opus Aerospace.
Quel a été votre parcours d'étudiant?
Mon parcours d'étudiant, j'ai été formé en tant qu'ingénieur aérospatial dans une école qui s'appelle l'IPSA, qui est basée à Ivry-sur-Seine. Ma spécialité est la télécommunication, ce qu'on appelle un peu les systèmes embarqués, orientés vers la télécommunication. Et pendant mes années d'études, j'ai pu participer à un programme qui s'appelle Perseus, qui était destiné aux étudiants, jeunes ingénieurs, laboratoires de recherche, groupes, qui consistait à développer les systèmes spatiaux futurs et y participer, et à nous former aussi en tant qu'étudiants. Et donc pendant mes années d'étudiant, j'ai pu avoir des expériences professionnelles. J'ai pu faire des ailerons composites à Airbus Opération à Toulouse. J'ai pu travailler sur la communication satellite militaire à Airbus Defence and Space à Hélencourt. Et en stage de fin d'études, j'ai pu en tout cas participer, si je peux dire, sur le programme Wisdom, qui est en fait un instrument qui est sur ExoMars. Voilà.
Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant et ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière de création et de développement de la start-up Opus Aerospace?
Je dirais que particulièrement, non. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. C'est ça qui était un peu relativement intéressant. C'est que tout au long de ma carrière professionnelle slash personnelle ou d'étudiant, j'ai pu en apprendre un peu plus sur le monde du spatial. Initialement, lorsque j'ai rejoint l'IPSA, en terminant mes études, je voulais faire pilote de ligne. Ça n'avait rien à voir. Et en fait, au fur et à mesure de mes stages, j'ai rencontré des personnes qui m'ont inspiré et qui ont en fait ajouté cette petite vision du spatial ou du monde de l'ingénierie. Airbus Opération, par exemple, j'ai pu découvrir beaucoup d'ingénieurs, un technicien qui avait aussi suivi par exemple un parcours en parallèle qui était devenu ingénieur et qui m'expliquait un peu la fabrication des ailerons de la 350-1000. Donc ça m'a un peu plus poussé vers l'ingénierie. À Airbus Défense, mon tuteur de stage était un Anglais et qui était en gradué de programme à Hélencourt. Et il avait un peu plus que mon âge. Et c'était relativement intéressant parce que il m'a appris, si je peux dire, un peu. J'étais un peu assistant ingénieur, si je peux dire. Et donc il m'a appris un peu le cadre, la rigueur aussi. Et à quel point c'était cool aussi, si je peux dire. Et de l'autre côté, après mon stage de fin d'études, en fait, j'ai découvert autre chose. C'était le milieu de l'ingénierie. Le milieu de la recherche, pardon. Le milieu de la recherche, c'était au CNRS. Et c'était à l'époque, il y avait deux événements particulièrement intéressants. Il y avait, intéressant ou pas, il y avait le lancement, il me semble que c'était Taranis, à l'époque, qui était sur Vega. Donc c'était un lancement de Vega qui a dysfonctionné, si je peux dire un peu comme ça. Et il y avait l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Et dans le milieu un peu laboratoire, si je peux dire, ou recherche, j'avais rencontré des personnalités ou des personnes qui travaillaient dans le monde de la recherche et qui avaient travaillé des programmes qui durent un certain nombre d'années. Et en faisant en fait ce stage, ce que je voulais, c'était potentiellement faire une thèse par la suite. Et j'avais vu un peu le monde académique et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut. Nous, en tant que, on avait un bagage avec Perseus, avec les fusées expérimentales. Qu'est-ce qu'on peut nous faire ou essayer de faire pour essayer un peu d'accélérer l'exploration spatiale? Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'entrepreneuriat.
Très bien. Alors, pouvez-vous nous présenter la start-up Opus Aerospace?
Alors, Opus Aerospace est une start-up de l'industrie aérospatiale qui vise à concevoir, développer, opérer des lanceurs et des systèmes spatiaux destinés aux petits satellites. Donc, dans notre stratégie de développement aujourd'hui, on développe une petite fusée qui s'appelle Mésange, qui est une fusée suborbitale, qui est un peu notre démonstrateur, où on a mis pas mal de nos technologies, si je peux dire, dedans, comme des réservoirs, des moteurs en impression 3D, des réservoirs en aluminium avec certaines techniques de soudure, des cartes électroniques qu'on fabrique in-house. Et elle vise à être un démonstrateur pour notre lanceur, qui s'appelle Stern, qui sera capable de mettre en orbite jusqu'à 250 kg de petits satellites. Entre les deux, en fait, on utilise, si je peux dire, les technologies qu'on a intégrées dans Mésange pour en faire des systèmes spatiaux qu'on propose sur le marché. Donc les cartes électroniques ou alors des moteurs fusées. Voilà.
Sur quel marché se situe Opus Aerospace?
Alors globalement, Opus Aerospace vise le marché des petits satellites, globalement. Dans le marché des petits satellites, où vous avez un peu les fabricants de petits satellites, vous avez les services de lancement des petits satellites. Nous, on est agnostique. On essaie en tout cas d'adresser le marché séquentiellement de par notre développement. C'est-à-dire sur la partie composants, comme je l'évoquais juste avant, en fait, on essaie de proposer en tout cas ces composants spatiaux pour que les clients puissent fabriquer rapidement leur satellite ou leur système spatial. Par exemple, ça peut être un tug, ça peut être par exemple aussi des composants d'un lanceur. Et de l'autre côté, en fait, il y a le deuxième volet qui est le service de lancement qu'on propose avec nos lanceurs.
Alors, quelles sont les caractéristiques de vos lanceurs Mésange et Stern?
Alors, si je peux dire, Mésange, c'est un peu un petit Stern, si je peux le dire un peu comme ça, un peu si je peux vulgariser la chose. C'est une fusée qui fait 5 mètres de hauteur, avec 16 cm de diamètre. Elle intègre un moteur en fabrication additive, impression 3D, et elle est alimentée en peroxyde d'hydrogène et propane. Donc pour peroxyde d'hydrogène, c'est un peu de l'eau oxygénée hautement concentrée, à 90. Donc la caractéristique de Mésange, c'est qu'on a essayé en fait de mettre toutes les technologies qu'on souhaite, en tout cas mettre sur Stern, et un peu faire un trade-off entre les différentes technologies. Donc dans les réservoirs, on a des réservoirs concentriques, un réservoir à l'intérieur d'un autre. Donc le réservoir de propane, il est un peu au milieu, le réservoir d'HTP, il est autour. Vous avez des cartes électroniques qu'on a fabriquées en interne. Notre particularité, c'est qu'on a essayé à ce que les cartes électroniques soient assez modulaires. Ça nous permet de fabriquer beaucoup de cartes one shot, si je peux le dire un peu comme ça, et de gagner en termes de coûts sur la série. Donc on a essayé de mettre l'innovation là où il faut, et on a essayé de standardiser un maximum, tout en concevant un système ou ce qu'on appelle une solution de lancement un peu complète. C'est-à-dire autant la fusée que le système sol, ce qu'on appelle les éléments sol, et qui permettent d'alimenter, de déplacer, d'opérer la fusée. Donc nos ingénieurs travaillent sur tous ces éléments-là. En ce qui concerne Stern est un lanceur qui peut mettre en orbite jusqu'à 250 kg de petits satellites. Il fait aux alentours de 18 mètres, 1,2, si je peux dire, 1,2 mètres de diamètre. Pour les moteurs, on a repris en fait la technologie d'impression 3D qu'on utilise aujourd'hui sur les moteurs de Mésange. Les cartes électroniques, il y a une partie des cartes électroniques qu'on va faire en interne, une partie que c'est du COTS, en fait c'est des sur étagère. La même technologie de réservoir, encore une fois avec de la soudure, si je peux le dire, et une coiffe en composite, donc en termes de caractéristiques. Sur la réutilisabilité, on a visé une réutilisabilité du premier étage et de la coiffe. On a essayé de reproduire, si je peux le dire un peu comme ça, ce qu'on essaye de faire sur Mésange. Le gros avantage, c'est que ça nous permet déjà d'expérimenter à faible coût sur Mésange, en sachant qu'on embarque sur Mésange une technologie de bouclier thermique qu'on fabrique en impression 3D, et c'est un travail qu'on est en train de mener sur la réutilisation des lanceurs. Voilà.
Alors, dans le spatial, on dit souvent, si ça n'a pas volé, ça n'existe pas. Alors, c'est un peu violent hein, comme phrase, mais sur le terrain des lanceurs, c'est
La réalité.
véridique, c'est la réalité, effectivement. Alors, pouvez-vous nous rappeler les différentes étapes de la mise au point de ces lanceurs avant leur validation pour les premiers lancements?
Alors, il y a différentes étapes. Il y a la première étape un peu qui permet un peu d'identifier les besoins. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le projet en lui-même. Et après, en fait, ça, il y a ce qu'on appelle un peu des phases ou des revues, si je peux le dire comme ça. Donc, je vais un peu vulgariser la chose, où en fait, la première étape, c'est un peu faire une analyse de mission, si je peux dire, on a telle mission, avec qui on va collaborer, si je peux dire, en termes de fabrication, en termes d'infrastructure, de partenaires industriels ou autres. Et derrière, en fait, quelles sont nos capacités et quel est l'objectif final client. Après, derrière, on a en fait ce qu'on appelle des revues préliminaires de développement. C'est là où on va faire différents trade-offs entre les différentes technologies qu'on veut faire. Donc là, on est plus sur une logique, si je peux dire, un peu papier, toujours, dans le sens où on fait que des études et en fait on compare sur les différentes technos, on peut s'autoriser à faire certains prototypes. Et par la suite, on passe sur des revues de développement, sur la revue critique de développement, sur la revue de qualification, après vous avez la revue avant vol, etc. Et en fait, à chaque étape, en fait, on part un peu d'une feuille blanche et on descend petit à petit dans les différents sous-systèmes. Et en fait, on donne ça, si je peux dire, à différentes personnes compétentes, expérimentées, passionnées, qui vont en fait développer ces systèmes. Et petit à petit, en fait, ce qui est intéressant, si je peux dire, dans le spatial et qui est un peu fou, c'est que c'est à la croisée de différents domaines, si je peux dire, différentes compétences. C'est ça, moi, que j'adore, je dirais, dans le spatial, c'est qu'à la fois vous avez de l'électronique, du soft, de la structure, de la propulsion, vous avez tout le levier qu'on n'aime pas trop, mais on fait avec régulation, administration, mais qui est là un peu pour cadrer les choses et qui est relativement important aussi. Et en fait, on développe système par système. Et on qualifie système par système avant de qualifier le système complet, si je peux dire comme ça. Et donc, si par exemple on prend l'exemple du moteur, on va tester la plaque d'injection, on teste la chambre tout seul, on assemble les deux, on teste un peu le système complet, ensuite on ajoute les pompes, les vannes, etc. Et c'est pareil un peu pour la totalité de la fusée. Donc petit à petit, en fait, vous avez les systèmes qui se prennent forme et qui s'assemblent. Et en général, on fait ce qu'on appelle des essais. De chaque système. Par exemple, pour les essais, pour les cartes électroniques, on fait des essais environnement ou des essais de vibration pour voir si elles résistent et si les informations qu'elles sortent sont correctes, sinon c'est ballot. Et pour les moteurs, en général, on fait des essais moteurs, donc on les met sur un banc. Donc avec Opus, on a la chance d'avoir une zone d'essai où on a cette capacité en fait de faire des essais tranquillement. Donc on les intègre sur le banc d'essai et on essaye en fait de refaire les cycles, c'est-à-dire de tester en fait la durée que potentiellement le moteur aura à faire durant sa mission. Et après, bien sûr, on fait différents types d'essais, des essais où on imagine un peu une. En fait, on imagine en fait toute la séquence de vol, on essaie de faire un peu plus pour être sûr. On fait plusieurs fois certains essais pour voir si en fait on a la reproductibilité de cet essai-là et si tout se passe au mieux. Et après en fait l'essai un peu final, c'est ce qu'on appelle le vol simulé, où en fait on assemble la totalité de la fusée et en fait on teste, ça s'appelle aussi essai combiné sur certains gros lanceurs. Et c'est là où en fait on teste la totalité un peu de la séquence, si je peux dire, de la fusée. Donc c'est ça un peu qu'on est en train de faire avec mes anges, par exemple aujourd'hui. Et juste après, vous avez le transport et le lancement, quoi.
Et pour les tirs au banc au niveau des moteurs,
Oui.
vous les faites avec Ariane Group ou le CNES?
Non, jusqu'à présent, en fait, on a développé nos propres bancs.
D'accord, ok, très
Donc
bien.
on a pris le temps, en fait, Ce qu'on cherchait, c'était en fait d'essayer d'avoir cette capacité d'essayer. On est une jeune start-up et la partie un peu tricky du métier, c'est que quand on démarre, on n'a pas, en fait, on peut pas investir, si je peux dire, rapidement dans des machines, etc. en interne.
Non.
Donc on va collaborer avec des partenaires locaux. Donc nous, on collabore avec différents partenaires. Certains sont à Évry, je pense à Mongin, sur la fabrication des réservoirs. Collabore avec Micronic pour les cartes électroniques, AirPro qui est dans le 95 sur la fabrication de moteurs. Et en fait, ce qu'on a cherché, c'est avoir cette capacité d'essai qui était fondamentale, de manière à ce qu'on puisse gagner en termes d'agilité. On fabrique avec le fabricant, on sait que les délais ils sont faits, qui peut être qui peut fabriquer là ou là. Par contre, sur l'aspect moteur, on a essayé de développer nos propres bancs, d'intégrer en fait cette composante essai chez nous. C'était assez intéressant parce que ça nous a permis de créer un lieu de rénover, si je peux dire, ou avoir une zone d'essai sur un lieu qui était historique. On l'a découvert un peu par hasard. À Brétigny, en fait, il y avait le CNES dans les années 70, soit entre 60 et 70. C'était le centre technique du CNES. Donc on a retrouvé pas mal d'images où on retrouve les satellites dehors, si je peux dire, ce qui aujourd'hui ne se fait pas trop.
C'est clair.
Et il y avait le centre d'entraînement aussi des astronautes, à Brétigny aussi. En fait, c'était l'ancienne base aérienne. Et donc on a pu, avec le soutien du ministère des Armées, on a eu beaucoup de chance d'avoir un terrain où on peut installer notre banc. Donc on a un banc aujourd'hui où on fait des essais pour les anges. Où on a aussi proposé à d'autres startups aujourd'hui qui ont fait des essais chez nous.
C'est combien la poussée au niveau de...
Aujourd'hui, sur mes anges, on est sur du 3,5 kN.
D'accord, ok.
Le banc, il peut monter bien sûr un peu beaucoup plus, si je peux dire, mais pour l'instant, on est capé sur mes anges et on fait les essais sur mes anges.
Alors, quel sera le nombre de lancements prévus durant une année? Vous prévoyez à peu près combien de lancements initialement et sur du court moyen terme?
En fait, petit à petit, on essaye de valider, si je peux dire, le système complet un peu brique par brique. Donc, dans un premier temps, on va effectuer des lancements, ce qu'on appelle des lancements suborbitaux. Donc, on le fait un peu avec mes anges, déjà. On souhaite le faire avec mes anges. Et en fait, on commence par faire un lancement suborbital, c'est un peu l'étage de Stern, si je peux dire le premier étage, qu'on va en fait lancer et justement tester pour un peu valider cette brique-là. C'est un marché, le lancement suborbital, c'est un marché qui est assez petit, c'est un peu un marché de niche, si je peux dire. Il y a certains, si je peux dire, un peu acteurs en Europe qui font, je pense notamment à SSC, aux alentours de la Suède, à Kiruna, qui effectue des lancements, qui embarque pas mal de laboratoires, d'instruments ou d'expériences de laboratoires, d'écoles. Mais c'est un segment qui est assez intéressant sur le segment défense et armée. Donc nous, on souhaite en fait développer cette capacité-là aujourd'hui. Donc on a échangé avec différentes entités, tant publiques que privées. Et la cadence qui est envisagée aujourd'hui sur les lancements suborbitaux, elle est de 3 lancements par an, au maximum. Sur les lancements orbitaux, on a échangé avec différents types d'acteurs, donc de la start-up au grand groupe. Chacun a des besoins différents, chacun a des problématiques un peu différentes. On a essayé de construire une solution qui nous permet de rassembler, si je peux dire, et de répondre au maximum aux différents besoins de clients, que ce soit en termes de capacité d'emport, que ce soit en termes de fourniture de systèmes spatiaux en amont ou de l'accompagnement sur la partie logistique, assurance, si je peux dire. Et naturellement le prix. Et donc aujourd'hui en fait on a déterminé un prix qui est assez compétitif vis-à-vis du marché. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'on a essayé de faire une solution où on peut lancer un peu depuis n'importe où. Donc on a échangé avec différentes bases de lancement sur ce volet-là. Histoire de lorsqu'on démarre un peu les développements où on est cadré si je peux dire. Sur les différents sujets, on sait un peu à quoi nous attendre, même si avec mes anges, on est allé au bout du bout, si je peux le dire. Et il reste la partie opérationnelle, mais on a déjà beaucoup vu pas mal de choses. Et du coup, en fait, ça nous permet de mettre en place une cadence entre 10 et 20 lancements par an.
D'accord,
En ce qui
ok.
concerne
Donc
ça.
vous avez cette vous
Bien
auriez
sûr.
cette
Et bien
possibilité.
sûr, pour arriver en fait à cette cadence, il y a une montée progressive. Donc un lancement, ensuite 3 lancements, ensuite 5, 6 lancements, année par année. Moi j'apprécie beaucoup en fait, si je peux dire un peu dans le secteur, et on peut le voir dans différentes composantes, comment en fait les startups ou les groupes aujourd'hui ont évolué. Donc notamment aux US où on voit qu'avec les financements, certains ont évolué rapidement, d'autres ont évolué puis il y a eu des problèmes d'un sujet financier ou autre. D'autres, en fait, ont suivi une cadence et une montée en progression remarquable. Je pense notamment à Rocket Lab, par exemple. Et d'autres sont tout à fait sur un autre niveau, comme SpaceX. Et en fait, nous, on fait attention, si je peux dire, et on avance prudemment. Et on essaye, en fait, d'essayer d'avoir une approche qui est un peu ce que j'appelle un peu bottom-up, c'est-à-dire composants spatiaux, développement R&D, composants spatiaux, lanceurs, et petit à petit. Voilà.
Qui signifie implicitement que plus vous aurez de lancements, plus le tarif, les prix vont se démocratiser.
Exactement, oui, bien sûr. Il y a deux volets pour alimenter, si je peux dire, cette démocratisation des prix ou cette baisse des prix dans notre business model. La première chose, c'est la standardisation des modules qu'on fabrique ou des systèmes spatiaux qu'on fabrique. Et la deuxième chose, c'est la cadence. Donc en fait, la standardisation, si je peux dire, des systèmes spatiaux, que ce soit moteur ou carte électronique qu'on fabrique et qu'on propose sur le marché, permet en fait de fabriquer une série et donc de réduire le coût. C'est-à-dire qu'on lisse en fait le prix sur la fabrication de plusieurs éléments. Et surtout qu'en fait on a une réactivité sur les différents systèmes parce qu'on a standardisé les différents systèmes. Et en fait, c'est-à-dire qu'on n'adresse pas un système sous un angle différent, mais on l'adresse sous un angle un peu global avant de rentrer dans sa spécificité. Ce qui nous permet de gagner en termes de réactivité. En termes de R&D, c'est-à-dire qu'on n'investit pas sur plusieurs projets en même temps, mais on investit sur un projet et après en flèche, je peux le dire un peu comme ça. Et de l'autre côté, ça nous permet en fait de proposer une solution qu'on peut moduler, si je peux dire, dépendant des besoins du client ou de nos besoins. Voilà. Et c'est ça qui en fait va driver notre prix final.
Oui, bien
C'est
sûr.
un peu la maîtrise des coûts économiques derrière, c'est sûr.
Alors, sur quel site de lancement se feront les différents lancements?
Alors sur Mésange aujourd'hui, on a échangé avec plusieurs sites de lancement. Le lancement de Mésange aura lieu, en tout cas nous, notre volonté propre, et on est en discussion avec le CNES et le contrat, si je peux dire, en cours de signature à date, ou en cours de vérification pour signature, si je peux dire, pour un lancement depuis Kourou. Pourquoi Kourou? Parce que c'est un lieu historique. L'expertise du CNES est essentielle pour nous, pour un, si je peux dire, apprendre, mais aussi collaborer avec eux sur la logique un peu de développement, et avoir un retour sur tout le process. C'est un projet en fait qu'on a sorti un peu dans une logique justement d'alimenter notre stratégie un peu globale, ça c'est le premier point. Et de l'autre côté, pour voir étape par étape comment en fait tester le marché. Donc on peut se permettre des erreurs, si je peux dire un peu comme ça aussi. Pas trop, bien sûr, mais on peut. On en a fait, mais on apprend et on s'améliore et on calibre derrière. Donc on a aussi échangé avec d'autres acteurs. Donc on a échangé avec Saxavord et on a échangé avec Kiruna et Ndoya. Donc ça, c'est les sites aujourd'hui qu'on vise globalement sur les lancements orbitaux. Sur les lancements suborbitaux ou orbitaux, on a aussi échangé, pardon, avec le site de la DGA ou avec les interlocuteurs côté DGA pour des lancements, je l'espère, en tout cas suborbitaux depuis Biscarrosse. Voilà.
Alors, avez-vous une date pour le premier lancement?
Alors sur le projet Mésange. On espère en tout cas, et aujourd'hui on vise à lancer les anges vers la fin de l'année, juste avant, si je peux dire, la fin de l'année. Potentiellement, c'est des programmes un peu complexes, donc s'il y a un retard ou décalage, mais ça sera pas de plusieurs mois. On est un peu vers la fin, si je peux dire, du programme aujourd'hui. On a passé un peu la phase recherche, développement, là on est sur une logique de qualification. Sur tout ce qui est Stern, ça sera plutôt 2026. Aujourd'hui. Donc ce qu'on vise, c'est un lancement suborbital en 2026, avec une capacité par la suite de mise en place de lancements suborbitaux fin d'année, début d'année 2027.
Alors, quels sont les prochains challenges d'Opus Aerospace?
Ah, il y en a beaucoup.
Alors, citez-en au moins deux ou trois.
Oui, alors le challenge aujourd'hui, c'est on a un challenge qui est un peu plus technique. aujourd'hui, qui est en fait le lancement de Mésange, qui est un peu notre milestone, un peu notre phare, si je peux dire, qui est un peu nos guides. Ça sera un peu bien déjà pour nous, si je peux dire, d'effectuer ce lancement, mais surtout parce que lancer une fusée depuis CSG, depuis Kourou CSG, et avec toute la technologie qu'on a mis, en tout cas dans cette fusée, ça serait, je peux dire, ça va nous faire du bien, si je peux dire, d'atteindre l'objectif,
Oui, bien sûr. Ouais.
comme dans tout développement de société ou de personne, ou de carrière. Donc ça, c'est un peu notre objectif aujourd'hui, globalement technique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, majeur, à court terme, le deuxième, il est un peu sur le volet commercial, si je peux dire. C'est de commercialiser, industrialiser nos sous-systèmes spatiaux. Ça commence à se concrétiser. Et donc, je pense qu'en termes d'objectifs de la société, je pense, je suis tout à fait confiant que à la fin de l'année, on aura en tout cas on aura des contrats qui sont en train déjà de commencer à se concrétiser maintenant et qui se concrétiseront et d'autres qui se concrétiseront beaucoup plus à la fin de l'année. Et en fait, on réussira en fait. Ce qui m'intéresse particulièrement moi, c'est de valider, si je peux dire, un peu le business model et notre approche. Et donc, ça confirmera en fait, notre vision et le travail des équipes et notre singularité. Et ça, c'est relativement important pour moi et pour nous. Et le troisième point, qui est un peu plus financier, naturellement. Et en fait, on a dans la phase de vie d'une société ou d'une start-up, vous avez toujours un peu ça démarre, ça se structure. Donc là, on est de plus en plus en train de nous structurer, que ce soit avec des personnes un peu plus expérimentées, ou beaucoup plus expérimentées à haut niveau ou à différents postes. Et en fait, on préfère un peu la phase d'après, qui est un peu passer en fait de nos locaux aujourd'hui partagés avec certaines capacités d'assemblage, etc. à une usine avec une grande partie R&D, une partie fabrication. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer un peu cette phase-là, qui est un bâtiment de 1100 mètres carrés, qui est à 50 mètres d'où on est aujourd'hui, de l'autre côté. On va aller le voir après. Et en fait, on a réussi le deal d'avoir cette capacité d'essai, et il nous reste du coup à avoir un peu cette capacité de fabrication. Ça se fait avec des sous, si je peux le dire
Oui,
aussi.
bah oui, ce
Et
qui
donc aujourd'hui, on prépare une série A qui permettrait en tout cas, nous, de recruter des talents sur les différents départements aussi.
très présent en France,
Très
faut le
présent, très
rappeler,
présent
mais
en France.
pas forcément connu,
Oui.
c'est
Mais on a
important.
beaucoup de talents d'autres pays européens. On a des Italiens, des Grecs, des Espagnols au sein de l'équipe. Ça rajoute une multiculture, une sorte de richesse culturelle aussi. Et de différents points de vue, et ça permet vraiment. Et c'est aussi marrant parce que parfois on rentre dans un bureau et ils parlent en italien ou en espagnol, et du coup c'est drôle. Donc il y a ça, et en fait, le troisième challenge qui est aussi important, qui nous permet en fait de concrétiser la phase d'après, c'est justement la série. Voilà. Voilà les trois challenges.
Très bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier?
Alors, je pense qu'en France, on a la chance d'avoir en fait des associations, des personnes de qualité, des professionnels du secteur, et d'avoir une, si je peux dire un peu comme ça, un attrait pour l'ingénierie. On a eu beaucoup d'industries. Je pense notamment aux grandes sociétés qui sont en France, comme Airbus, Thales, Safran. BDA, Ariane Group. Et en fait, les gens ne le voient pas potentiellement, si je peux le dire un peu, mais on a une richesse et on a une force en ingénierie et en industrie. Je pense notamment par exemple à Dassault sur l'aspect un peu souveraineté et militaire, qui est très présente. Et on a la chance en tout cas d'être dans ce pays qui a cette capacité-là. Ça, c'est le premier point, sur le volet un peu industriel. Maintenant, en fait, pour les jeunes, des associations ou les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup en France. il ne faut pas hésiter à tester. On peut se tromper et en fait à se chercher. Que ça soit via des expériences associatives, que ça soit via des expériences professionnelles, les stages par exemple. Et ça permet en fait de construire, se construire déjà, et en fait d'avoir un retour sur ce qu'on veut faire. Parce qu'une fois on fait l'expérience, en fait on sait si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Ça sert à rien de trop réfléchir, pardon de le dire un peu comme ça. C'est plus en fait on est jeune et on grandit. Et en fait il faut se lancer et il faut échanger avec les experts ou les personnes qui sont en fait au poste qu'on s'imagine vouloir faire demain. Et en tout cas moi j'ai eu la chance en tout cas de en fait côtoyer des experts, si je peux dire, que ce soit par le milieu associatif, que ce soit via l'école d'ingénierie, que ce soit via mes expériences professionnelles, stages, etc. Et ça m'a permis un peu de calibrer ce que je voulais faire. Et je conseillerais particulièrement aux jeunes filles et garçons, et hommes et femmes de demain, de suivre cette voie. Pour le spatial, en général, quand on est fan de spatial et on veut faire du spatial, on est fou de spatial. Moi, personnellement, toutes les personnes que je connais qui veulent faire du spatial, c'est, pardon, je vais le dire un peu vulgairement, c'est des tarés. C'est un peu moi ce que j'appelle des space geeks. Donc, déjà, soit ils sont trop dans le spatial, soit ils sont un peu loin, mais ils adorent, donc, et ils parlent tout le temps de spatial. Et cette passion commune rassemble, a l'avantage de rassembler beaucoup. Je dirais, et surtout d'être un vecteur ou une image inspirante pour d'autres. Et il faut pas hésiter, je pense, lorsqu'on veut faire du spatial, d'en discuter avec personne autour de nous aussi, parce que ça rassemble. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc moi, ce que je conseillerais globalement, c'est ça.
Et qui est la synthèse d'une pluralité de domaines scientifiques, le spatial, quoi.
Oui, c'est
Et
ce que je
ça,
disais.
c'est important.
C'est ce que je disais un peu avant. C'est un peu le croisement. Enfin, c'est génial parce que vous avez sur par exemple les systèmes spatiaux ou les lanceurs, etc. Vous avez toute la partie mécanique, structure, etc. Mais il faut pas qu'on oublie toute la partie astronaute, par exemple, station spatiale, où en fait ils utilisent tout ce qui est biologie parfois. Et en fait, on le voit sur les expérimentations, les interviews de Thomas Pesquet et autres, et ou d'autres astronautes qui évoquent toute la richesse et des expérimentations qu'ils font en fait à bord de la Station spatiale internationale.
Au sein de l'ISS, on a différents laboratoires avec des spécificités propres dans le domaine de l'astronomie, de l'astrophysique ou autre, où il y a des expériences de pointe qui y sont menées en fait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas réduire le spatial à juste des
Non, non, c'est vrai.
astronautes sur une discipline
Exactement,
importante. Parfait. Pour terminer, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi? Je vais préciser quelque chose qui me semble fondamental. Lorsqu'on parle et je parle d'associations scientifiques, je ne parle pas la spécificité très localisée et peu nombreuse au sein des écoles d'ingénieurs avec lesquelles les ingénieurs, hommes et femmes, filles et garçons, s'éclatent, s'amusent, sont passionnés, réalisent des fusées-ex, des mini-fusées ou des fusées-ex, font leur première main dessus. Je parle plus spécifiquement d'une manière assez générale de ces associations scientifiques et techniques présentes au sein, que ce soit des quartiers populaires, au sein de la société, qui essayent de faire des efforts non négligeables pour un partage de cette culture scientifique. Et en apprendre par eux-mêmes, afin de rapprocher, comme vous le soulignez si bien, de rassembler les personnes et de prendre conscience de la richesse immense que l'on a au sein de la France et de l'Europe sur les différentes thématiques scientifiques, spatiales, astrophysique, robotique, aéronautique, et j'en passe.
En fait, il y a différents sujets. Il y a différents sujets et je suis tout à fait d'accord que si je parle un peu de moi de par ma carrière, si je peux dire ma courte carrière pour l'instant, dans le spatial. En fait, si je prends le volet école d'ingénieur, si je peux dire, moi je suis arrivé en France quand j'avais 17 ans et demi, et du coup, avec l'école d'ingénieur, en fait, j'ai pu rejoindre l'association et me former. Donc je n'ai pas connu, en fait, si je peux le dire un peu comme ça, les associations qui sont dans les quartiers. Par contre, lorsque j'étais dans les quartiers ou dans les villes ou dans les départements, et en fait quand j'étais dans l'association étudiante de l'IPSA, qui consistait à faire des fusées expérimentales, j'ai pu collaborer avec une autre association, le Garif Aérospatial, qui
Paris
est basée
13.
à Paris 13, et Port d'Ivry, qui est une association qui est une des premières associations françaises liées un peu au spatial, qui a fait des fusées, etc., qui est un peu une sorte de généralité, et qui avait aussi d'autres segments par le passé, sur l'océanographie, etc. Et en fait, j'ai pu voir sous cet angle-là, enfin de mon angle aussi d'étudiant, et par la suite, quand je suis sorti du monde étudiant, voir en fait qu'il y avait des jeunes qui en fait faisaient des stages de découverte, qui apprenaient petit à petit, qui en fait rejoignaient par la suite l'association, et qui par la suite continuaient. Au sein de l'association, il y avait des personnes qui avaient rejoint l'association à 14 ans, et qui travaillaient en parallèle d'être à l'association encore. Et donc en fait, ils sont restés pendant longtemps en tout cas. D'autres ont rejoint par la suite le monde du spatial. Et du coup, ils essayaient aussi, en fait, le Garef, si je peux dire, ou le passage par le Garef ou par cette association leur a permis de voir aussi d'autres projets, par exemple avec Planète Science, de lancer des fusées, etc. Ce qui est aussi mon cas. Mais certains aussi, sont partis aussi, ont ouvert un club dans leur ville ou dans leur quartier, pour en fait propager, si je peux dire, ou former aussi les idées et un peu vulgariser l'accès ou les sciences. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi j'ai des cas concrets au sein de ma société de personnes en fait qui ont rejoint ces clubs-là, qui étaient dans une ville, dans un coin, si je peux dire, un peu paumé parfois, qui ont pu rejoindre une association, qui ont en fait travaillé sur ou appris sur des points un peu scientifiques, et qui petit à petit ont fait des fusées, et par la suite, boum boum boum, ils ont rejoint l'école d'ingénieurs derrière. Et qui sont toujours restés en. J'en ai même deux au sein de la société d'ailleurs, qui s'y connaissaient avant, qui ont fait deux écoles d'ingé différentes, etc. Ouais, je me rappelle. Et en fait, je trouve que c'est une force un peu, si je peux dire, en France, même beaucoup, d'avoir un vivier associatif, que ce soit à l'échelle un peu nationale, locale, départementale, mais aussi à l'échelle académique, ingénierie, etc. Et en fait, on y développe des compétences, on apprend ludiquement, parce que voilà, on est en école d'ingé, on voit, si je peux dire, pas mal de calculs techniques, théories. En général, c'est pas trop passionnant que faire quelque chose avec ses mains et construire quelque chose de A à Z, ce qui est relativement intéressant s'ils ont plusieurs compétences. Et en ingénierie, en tout cas, associer l'ingénierie à ce volet associatif ludique permet en fait de rendre le métier beaucoup plus fun et d'apprendre et de s'éclater, pour prendre le volet école d'ingé, mais de s'éclater avec les sciences. Et ça permet en fait de créer demain des hommes et femmes qui en fait découvrent les métiers. Donc il y a des associations ingénierie, il y a des associations aussi de découverte de métiers. Je pense notamment par exemple à Elbouche, qui en fait qui permet du coup à des jeunes filles du secteur de l'ingénierie ou des écoles de aussi visiter des grandes entreprises, d'en apprendre un peu plus sur les différents métiers qui ont des marraines, etc. Et ça permet de se projeter, ça permet de se dire je peux potentiellement faire ça ou je peux devenir demain cette personne-là. Et ça permet en fait de se dire on peut demain devenir cette personne
S'identifier,
ou s'identifier et de dire je peux construire ma carrière et devenir comme ça. Et ça, je pense que c'est une chance. Il faut pas se louper en fait. Quand
faut
on a la
saisir
chance de
les
pouvoir,
occasions.
en fait, quand on a la chance de pouvoir le faire, autant le faire, quoi.